Bah, il est l'heure de retrouver Bruno Canard et l'émission Écriture dessinée maintenant. Bonjour Bruno.
Bonjour Fabien. Aujourd'hui, on va parler dessin, notamment avec le triptyque Madeleine Résistante, Madeleine Riffaut Résistante, qui est donc un récit. On avait reçu Jean-David Morvan à cette occasion. Il y avait eu un entretien avec lui. Et donc, c'est avec Dominique Bertaille qu'on va discuter de la mise en image de ce témoignage d'une figure de la résistance. Et l'extrême précision du dessin apporte une ampleur rare à ce récit. Et donc la question, c'est en quoi les partis pris du dessinateur, ces questions de dessin, apportant à chaque case, à chaque double page, une telle puissance, comment fonctionne Dominique Bertaille? Donc c'est avec un entretien avec lui en direct à partir de 14h15 que nous pourrons répondre à ces questions. À tout de suite.
Écriture dessinée.
Bonjour à toutes et à tous. Vous l'avez entendu, Fabien est en régie. Alors, la programmation musicale, elle a été faite par Dominique Bertaille. J'ai rajouté une participation. Donc, on va commencer par The Soft Moon et leur titre Wastings, qui était un morceau qu'a beaucoup écouté Dominique Bertaille pendant la réalisation de l'album. Et puis, il y aura Indila avec le morceau La Dernière Danse. Et puis, donc, moi, j'ai choisi pour finir Tom Waits et Marc Ribot avec leur très belle adaptation de Bella Ciao, qui est un chant de résistance magistral. On va commencer par une brève à l'occasion d'une vente aux enchères un peu exceptionnelle, qui est celle des planches originales, de 50 planches originales de Maurice, le créateur de Lucky Luke. Alors, c'est assez rare parce que les planches de Lucky Luke, il s'en est vendu peu. Il y a surtout eu des dessins. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est quand on regarde les planches qui sont en vente, il y a encore les bouts de scotch ou les traces de scotch pour coller les deux demi-pages pour faire une page. Il y a vraiment des marques sur la planche. Alors l'intérieur même n'est pas touché, mais sur les bords, il y a beaucoup d'indications. Et puis, ces 50 planches retracent toute la carrière. Alors, on a jusque une page du sosie de Lucky Luke qui est parue dans La Mine d'or de Penfield Gulch, qui était le premier album paru, même si ce n'était pas la première histoire, jusqu'à La Légende de l'Ouest. Et donc, on a l'évolution du dessin. Et c'est un génie du dessin, il n'y a pas d'autre mot. Il y a un sens, une précision dans les gestuels. Regardez une bagarre de Lucky Luke, vous avez le bras qui va traverser le corps et qui va créer une protubérance de l'autre côté. C'est très drôle. Alors, c'est aussi un auteur qui n'aimait pas les jeux de mots de Goscinny. Alors, on les trouvait dans Is No Good et dans Astérix, mais Maurice n'en voulait pas. Donc, on n'a pas la même ironie dans Lucky Luke que dans les autres séries scénarisées par Goscinny. Le catalogue est à télécharger, ça va se passer chez Christie's. Et pour avoir une planche, il faut compter entre 30 000 et 80 000 euros. Donc, on va juste regarder et on va voir ce que ça va donner. Alors, c'est un peu le revers de cette bande dessinée qui est un médium populaire, extrêmement populaire, mais avec tout son éventail. Et puis, ces ventes originales qui, finalement, flattent les collectionneurs et ceux qui ont beaucoup de moyens. Première virgule, les Shadok. Alors, puisque Madeleine Riffaut résistante. Madeleine résistante, c'est à la fois un témoignage et la biographie de Madeleine Riffaut. J'ai voulu encadrer ce livre par d'autres biographies, d'autres approches, d'autres regards sur un moment historique. Et je voudrais donc commencer par Au cœur du 7 octobre, qui est un recueil de témoignages sur la barbarie qui s'est déroulée en Israël, perpétré par le Hamas le 7 octobre. Alors il y a eu la commémoration, donc ce livre s'inscrit un peu dans ce principe de la commémoration. Il y a donc eu un recueil de témoignages et de planches qui ont été faites par différents dessinateurs sous la direction de Uri Fink. Et beaucoup de ces dessinateurs sont des élèves de Michel Kishka, qui est un auteur qui a publié déjà plusieurs livres chez Dargo et qui avait notamment, j'avais présenté son très beau Un autre Jérusalem. Alors c'est lui qui va ouvrir le bal et qui va donner un ton assez fort, mais qui sera pas suivi par d'autres auteurs. Il raconte l'histoire de Yosef, qui est donc aussi un rescapé, et cette personne va conclure son histoire, son témoignage par « Juifs et Bédouins n'ont d'autre choix que de vivre ensemble, sans ça, pas d'avenir possible. » Donc, il y a là une façon de pouvoir mettre en perspective les différents témoignages, qu'ils ne soient pas simplement qu'une simple compilation. Il y a d'autres qui commencent à évoquer la lenteur de l'armée, mais là aussi en restant relativement descriptif. Il y a un autre témoignage un peu plus loin qui est celui de Jonathan Washman, qui présente Yari Golan, qui est militant de la gauche israélienne et qui lui combat défend une égalité pour tous et une solution à deux États. Donc ces deux possibilités, un État, deux États, eh bien, sont juste évoquées. Et c'est un peu dommage que ce témoignage au cœur du 7 octobre ne pose pas un peu plus l'avenir, les perspective. Il faut, parce que c'est pas fait par le livre, mais il faut le mettre en relation avec le livre noir de Gaza, qui est un recueil de différents textes d'Agnès Levallois. Et puis, donc c'est un décryptage de cette entreprise d'anéantissement de Gaza par Israël. Et puis, et ça on aura l'occasion d'en reparler, le livre de Josaku, Guerre à Gaza, que je vous présenterai prochainement. Deuxième virgule. Alors une autre biographie est intéressante, importante, c'est Hors la loi, l'histoire vraie d'un cow-boy transgenre. Alors c'est vrai que la question du genre a beaucoup évolué, donc c'est normal qu'on arrive à trouver d'autres approches, d'autres présences dans la bande dessinée. Et c'est donc Stéphane Tamayon et Priscilla Orvillère qui ont choisi de traiter cette biographie d'une personne, Harry Allen, qui est donc le premier cow-boy transgenre. Je ne sais pas s'il y en a eu beaucoup d'autres, mais en tout cas, celui-là, après avoir lu son histoire, elle ne manque pas de piquant. Je résume. Alors, il est né le 11 septembre 1882 sous le nom de Neil Pickrell, et Harry Allen délaisse très tôt son patronyme féminin pour celui masculin d'Harry. Donc il va fuir un père violent et une mère alcoolique, et Harry espère trouver dans l'Ouest sauvage un refuge où il était possible de se réinventer. Il est tour à tour barman, croupier, barbier, trafiquant d'alcool, voleur de chevaux, proxénète, bandit de grand chemin. Il se distingue ainsi par l'épaisseur de son casier judiciaire, mais aussi par la cinquantaine d'articles qui lui consacrèrent les journaux de la région de Seattle. Il est pointé du doigt, violé, poignardé, jeté en prison, suscitant autant de haine que d'adoration. Trois femmes vont se suicider par amour pour lui. Harry mène une vie d'errance, éternel vagabond, avant de mourir dans la misère à 40 ans. Ah, c'est un beau chantier à mettre ça en image, hein. Ça fait une trame narrative assez intense. Et Stéphane Tamayon et Priscilla Orvillers vont vraiment mettre ça en image, et ça va se lire avec un très grand bonheur. Alors il y a un certain nombre de partis pris très forts dans la mise en image de ce récit. Alors déjà, c'est vraiment d'ancrer cette biographie dans cette enfance et dans cette façon que va avoir cette femme de vouloir devenir un homme. Il y a une déception amoureuse qui elle est avec Joséphine, qui est employée dans la même maison qu'elle. Elles ont donc une relation ensemble, et puis grosse déception, elle va finalement se marier avec son patron, et donc Harry Allen, qui est à ce moment-là encore une femme, dit: mais je ne comprends pas, il n'y a pas grand chose à comprendre, je vais bientôt épouser Rufus, mais ce crétin de maître d'hôtel, mais et nos projets, tous nos rêves, c'est joli de rêver, mais à un moment il faut redescendre sur terre. On devait partir loin d'ici, toutes les deux. Pour devenir quoi? Des marginales? Des invertis, comme ils nous appellent? Comment tu crois que les gars traitent les filles comme nous? On ne serait jamais nulle part les bienvenus. Ça pose tout à fait le ton, et on va avoir cette mise en image avec un trait de pinceau très enlevé, très dynamique, une régularité de la mise en scène avec cette base de deux bandes ou de trois bandes, une tendance à ces cadrages et à ces espaces de cases très proches les uns des autres, et il y a cette ironie du trait qui va parfaitement coller avec la personnalité de Harry Allen. Alors, on a du mal à imaginer à quel point cette femme est douée, et une fois homme, elle l'est tout aussi douée, puisqu'elle va se retrouver sur un ring avec un boxeur qui en impose, et puis elle va s'en défaire, elle va même être videur dans un saloon, et il y a quelques scènes qui sont tout à fait piquantes. Donc ce récit est très dynamique, et on découvre ce qu'est effectivement pour une femme qui veut s'affirmer comme homme dans ce Far West dont dans notre imaginaire n'est pas du tout associé à ça. C'est une belle découverte, et une autre façon de traiter la biographie, déjà en choisissant des personnalités atypiques. Or la loi, l'histoire vraie d'un cow-boy transgenre, est un récit narré par Stéphane Tamayon, mis en image par Priscilla Orvillers, et c'est un livre publié par les éditions Marabout, dans la collection Marabule. Les 128 pages de ce récit sont au prix de 24 euros. Et on écoute le premier morceau choisi par Dominique Bertaille.
Thank you.
Depuis ses années de Beaux-Arts à Rennes et à l'atelier BD d'Angoulême, Dominique Bertaille a mis en image de nombreux récits aux genres différents. Participé à différents ouvrages collectifs, cofondé avec Thierry Smolderen le site Coconino World, travaillé sur des storyboards pour la télévision, l'animation, le cinéma ou la publicité. Pour Madeleine Résistante, Dominique Bertaille fait évoluer mise en scène et dessin pour être au plus près de la personnalité de cette chef de la Résistance connue sous le nom de Rainer. Entrée en résistance à 16 ans en 1940, elle enchaîne après les missions et apprend toutes les ficelles des combats clandestins. Dans ce troisième volume, nous la retrouvons après son arrestation, soumise à la torture et ne livrant aucun nom. Échappe à la mort et participe à la libération de Paris. Dans chaque image, le lecteur sent le plaisir du dessinateur, la précision de ses représentations, la façon dont Dominique Bertaille fait mûrir Madeleine Riffaut. Au fil de ce triptyque, sa personnalité s'affirme. Ses gestes sont plus sûrs, son autorité incontestable. Le dessinateur est capable de rendre ses subtilités. Dominique Bertaille ne s'autorise aucune simplification. Madeleine Résistante est une plongée dans une époque. Nous sommes au coin de chaque rue de Paris. Occupés, tant les décors, par leur vraisemblance, semblent familiers. Le choix d'une mise en scène, d'une mise en couleur avec un lavis jouant avec toutes les nuances de bleu, renforce l'authenticité historique. Dominique Bertaille saisit l'intensité du témoignage de Madeleine Riffaut, sa détermination à être et à rester actrice de sa vie. Elle rayonne dans chacune des images. Nous sommes avec Dominique Bertaille pour discuter de ces questions de dessin qui ont permis la mise en image de la vie de Madeleine Riffaut. Bonjour Dominique Bertaille.
Bonjour.
Alors, racontez-nous un peu comment vous avez rencontré Madeleine Riffaut, comment s'est passé les premiers moments avec elle.
J'ai rencontré Madeleine Riffaut chez elle parce que Jean-David Morvan, qui y travaillait déjà depuis deux ans quasiment avec elle à faire remonter tous ses souvenirs, à discuter. Et il m'a proposé de le dessiner à partir du moment où ils étaient sûrs tous les deux qu'il y avait de quoi remplir un album, puis deux, puis trois. Et Jean-David m'a proposé de la rencontrer. Au début, j'étais pas fan à l'idée de dessiner la vie de Madeleine, d'une part parce que je la connaissais pas. Et puis j'avais un petit peu peur que le sujet soit un peu sérieux pour moi, qui ai tendance à dessiner vraiment pour le plaisir. C'est vraiment complètement lié au plaisir, le dessin. Et là, je sentais que ça allait être fatalement un petit peu douloureux, de par le sujet. Et puis Jean-David m'a proposé de me présenter Madeleine. Voilà, il avait une idée derrière la tête. Et puis je suis allé voir, après une dédicace dans le Marais, vers minuit, je suis allé la voir, parce qu'elle me disait qu'elle vivait la nuit. Et puis, dès notre première rencontre, Madeleine m'a raconté dans les détails toute la période de la détention à la Gestapo, qui est le sujet du troisième album. Et ce qui m'a un petit peu étonné, de par la dureté du récit, je sais toujours pas pourquoi est-ce qu'elle est rentrée dans le vif du sujet comme ça. Peut-être que c'était pour tester ma résistance à son récit. Je sais pas, toujours est-il que j'ai été complètement fasciné par son... ses talents de narratrice, par son humour aussi, parce que dès qu'elle voyait que j'étais un peu mal à l'aise, elle trouvait un autre moyen de le raconter, elle y mettait beaucoup d'humour, ce qui était très très étonnant. Et puis au bout de 2-3 heures, je me suis aperçu que je l'avais écouté pendant 3 heures sans m'ennuyer une seconde, et que je suis tombé complètement sous le charme, qui était un petit peu le but de Jean-David. Il savait très bien que j'allais tomber moi aussi sous le charme. Et puis après, en sortant de cette rencontre, c'était une évidence qu'il fallait le dessiner. Voilà à peu près comment ça s'est passé.
Alors, comment le dessin intervient, notamment pour dessiner Madeleine? Parce que, alors, dans le triptyque, elle rayonne, c'est vraiment très impressionnant. Mais qu'est-ce que ça implique sur le plan dessin de représenter une jeune fille qui a 16 ans au début de son engagement dans la Résistance et 20 ans à la libération de Paris?
Bah, ça implique beaucoup de choses. C'est, dès le départ, on savait avec Jean-David qu'il y avait 1000 façons de raconter ce qu'elle nous avait raconté. Donc déjà, il y a des questions de mise en scène d'abord qui se posent. Est-ce qu'on le raconte de manière thématique, comme elle nous le raconte, c'est-à-dire pas dans l'ordre chronologique, mais comme les souvenirs remontent à la surface. Donc déjà, bah, on a opté pour une narration plus linéaire pour que ça soit pour pouvoir guider le lecteur, que ça soit plus facile à lire, parce qu'on avait vraiment envie que ça s'adresse à tout le monde, au plus large public possible, donc même aux gens qui sont pas très habitués à la lecture de bande dessinée, parce que la lecture de bande dessinée, c'est quand même assez compliqué quand on n'a pas grandi avec. C'est un exercice cognitif pas simple. Donc tout de suite, on s'est dit qu'on voulait avoir le langage le plus accessible, et pas le plus simple, mais le plus accessible, donc de manière linéaire. Et puis, d'un point de vue de dessin pur, là aussi, je voulais pouvoir m'adresser au plus grand public. Donc, j'ai tout de suite pensé à Tintin comme modèle, parce que Hergé me semblait être l'un des dessinateurs les plus universels qui soit, qui s'adresse vraiment à toute la planète, l'a lu, et ça paraît une évidence de le lire. Donc ça a été un modèle assez fort. Et puis le manga en général aussi, j'avais notamment Toriyama ou Otomo en tête, parce que pour aussi que la volonté autant de Madeleine que de Jean-David que la mienne de s'adresser à un public plus jeune aussi, et donc d'avoir un rythme de lecture et un domaine de dessin qui soit un peu familier pour le jeune lectorat. Donc j'ai cherché un peu une zone médiane entre ces deux influences-là pour pouvoir m'adresser à la fois aux anciens et aux plus jeunes.
Qu'est-ce que ça implique, Dominique Bertheil, par exemple, sur les expressions? Parce que, à de nombreuses reprises, sur la qualité des regards, la couverture du troisième volume, on a ce regard de Madeleine qui est capté, qui est là, où on sent aussi bien l'autorité, l'inquiétude, Comment se passent vos séances où vous êtes avec votre crayon et vous dessinez Madeleine? Expliquez-nous. Bah, j'ai besoin de savoir.
Bah, effectivement, pour moi, tout se situe autour du regard, quoi. C'est vraiment le regard qui est le plus important. Et après, tout ce qui est autour est périphérique. Et sur le regard, notamment, parce que Madeleine a un regard très pénétrant, même si elle voit plus beaucoup, elle dégage toujours autant d'énergie avec ses yeux. Et puis aussi, j'avais en tête le portrait que Picasso a fait d'elle juste après la guerre, qui l'a vraiment très bien comprise tout de suite, et qui est un portrait qu'on peut voir sur l'édition en épisode qu'on avait fait en cahier comme ça, et qui est un portrait de face avec ce regard assez pénétrant. Et donc j'ai toujours ce portrait sous les yeux pour m'y référer. Et puis le regard aussi, je voulais pas trop me référer aux photos de Madeleine. Il y en a beaucoup, mais les photos sont souvent trompeuses. La lumière crée des volumes qui n'existent pas forcément, ça crée des rides qui vieillissent très vite le personnage. Donc je voulais pas... voilà, je me réfère plus au dessin de Picasso qu'aux photos. Et puis j'essaie de dessiner Madeleine, non pas comme un personnage extérieur, comme souvent ça peut être le cas dans les biopics. Quelquefois on peut avoir le réflexe de faire un texte qui dit voilà, un tel a fait telle chose, et puis une image un peu d'après photo où on voit la personne en question faire le geste qui est décrit dans le texte juste au-dessus, et qui crée comme ça une espèce de distance où le personnage dont on raconte la vie est un objet extérieur qu'on regarde de l'extérieur. Et moi, je voulais vraiment que ça soit utilisé, la bande dessinée, un peu à l'ancienne, comme Tintin, ou de me réapproprier complètement le personnage comme si je dessinais ce personnage qui serait une émanation de moi-même. C'est-à-dire que j'essaie d'ingérer au maximum Madeleine pour pouvoir la ressortir la plus vivante possible sur le papier et la vivre de l'intérieur. Et donc vraiment insister sur les regards qui donnent toute l'expression et toute la vie. Donc elle a un visage assez codé comme ça, assez simple en dessin. Pour que le lecteur puisse s'approprier aussi ce personnage-là, qu'il ne le voit pas de l'extérieur. D'où le choix d'un dessin un petit peu proche parfois du dessin animé ou du dessin dit cartoon. Voilà, pour réduire au maximum cette distance.
Il y a également, pour tous les personnages, les personnes présentes dans les livres, la gestuelle. Il y a une attention, une précision, j'ai beaucoup évoqué la précision dans le chapeau, mais il y a une précision sur chaque geste, sur comment une arme se tient, comment on tient une grenade, quand quelqu'un lit un journal, comment il le lit. Et là aussi, comment travaillez-vous ?
Bah, j'y porte effectivement une grande attention parce que c'est ça qui va faire qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, que les mouvements vont avoir l'air mécaniques ou vont avoir l'air vrais. J'y pense, pour moi c'est un peu comme du théâtre et les acteurs s'expriment par leur gestuelle. Donc je m'y applique au mieux que je peux. J'essaie de me procurer aussi certaines armes de l'époque, par exemple sa stène, là, sa mitraillette qui est un objet qu'elle va beaucoup porter, surtout dans le prochain tome, mais pour essayer de voir, voilà, pour essayer de prendre conscience du poids des objets, de prendre conscience de comment on les porte. Voilà, donc il y a effectivement une grosse attention portée à ça, ouais. Donc je mime les gestes, j'imagine avoir vu les personnages faire ça et essayer de les retranscrire comme si c'était une mémoire de quelque chose que j'aurais vu, même si en l'occurrence c'est une mémoire que nous transmet Madeleine de quelque chose qu'elle a vu, et nous on essaie de se réapproprier cette mémoire pour l'intégrer au plus proche. C'est une drôle d'opération.
Dominique Berta, je vous propose une pause musicale et puis on va se retrouver donc dans quelques minutes et puis on va continuer cette exploration du dessin de Madeleine Résistante. À tout de suite.
À tout de suite.
Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir que tout recommence. Je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour, oui?
Vous êtes sur Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes en direct avec Dominique Bertaille qui a mis en image et en scène la série Madeleine Résistante. C'est pas une série, c'est un triptyque. Et le troisième volume s'appelle Les nouilles à la tomate. Dominique Bertaille, comment ça se passe pour les décors? Parce que alors, là aussi, on a une précision équivalente à celle des regards et de la gestuelle. Avec quelle documentation avez-vous travaillé et comment l'avez-vous constitué?
Jean-David, déjà en fournissant, Jean-David Morvan, en me fournissant le scénario, me fait pas mal de recherches, lui, parce qu'il adore ça aussi, toute cette recherche de documentation. En lien hypertexte, il me fournit pas mal de docs. Et puis de mon côté, je regarde énormément de livres de photos sur Paris des années 40. Je lis aussi beaucoup de témoignages de gens qui ont vécu cette époque-là, qui racontent les détails. Ça les montre pas, mais ça les raconte. Et quelquefois, c'est moins trompeur que les photographies. Parce que les photographies, le problème, c'est qu'à l'époque, les photographes avaient tendance à photographier l'extraordinaire. Et que moi, j'ai besoin de choses du quotidien. Et donc, les clichés peuvent parfois mentir. Par contre, les témoignages écrits peuvent raconter au plus proche le quotidien. Et c'est vrai que le décor, moi j'y tiens beaucoup parce que je trouve que c'est un peu le deuxième personnage, Paris est un peu le deuxième personnage de cette histoire. C'est pas pour rien qu'elle se bat autant pour libérer cette ville, c'est qu'elle l'aime aussi. Et puis moi j'ai quitté Paris depuis quelques temps, c'est une ville que j'adore, qui me manque. Et j'avais très envie de la dessiner, donc ça tombait assez bien que ce projet se profile. Et donc j'envisage le décor comme oui vraiment comme un personnage et puis c'est un... quand je dessine j'ai un petit peu l'impression de faire du cinéma, c'est-à-dire que je mets en scène beaucoup par la lumière d'une part et puis par le décor, l'espace, par les costumes, par la gestuelle.
Alors voilà. Il y a, Dominique Bertaille, dans donc Madeleine Résistante, des scènes de Paris. Il y a une scène à côté du café des Deux Magots. On voit une sorte de kiosque à journaux. Et vous choisissez de vraiment détailler la présence des journaux, la couverture, la façon dont le papier des quotidiens peut se corner. On a l'impression de voir en détail les différentes premières pages. À quel moment vous décidez de vous arrêter dans cette précision ou pourquoi vous choisissez d'aller aussi précis dans cette évocation du Paris occupé?
Moi, je me rends compte que les albums que j'ai lus quand j'étais enfant et que je lis encore, où j'ai le plus cru à l'histoire, c'est parce que le soin du détail était assez précis. Je pense à Tintin, à Black et Mortimer, ou plus tard à Akira, que tous ces petits détails font que je vais croire à l'histoire ou pas, quoi. C'est-à-dire qu'on peut lire plusieurs fois l'histoire. La première histoire, on voit les personnages et on lit l'intrigue. Et puis si on y revient, on va pouvoir petit à petit découvrir toutes ces petites choses en regard périphérique. On n'est pas obligé de détailler tous les détails, mais ils sont là. Et puis moi, pour dessiner, j'ai besoin de croire aussi à ce que je raconte. J'ai besoin d'entendre les sons, de sentir les odeurs. Alors même si c'est pas possible avec la bande dessinée, j'essaye de les simuler. S'il y a des rues mouillées au petit matin, on va pouvoir créer une sensation de froid. S'il y a une carriole qui passe avec des sabots d'un cheval assez lourd sur le pavé, on va peut-être entendre ces sons-là. Et voilà, ce sont aussi des artifices pour pallier au manque du dessin lui-même, faire entendre ces sons. Et quand moi je le dessine, je les entends j'ai une totale empathie avec les personnages et ce qui leur arrive, parce que j'ai l'impression de vivre dans le même contexte qu'eux-mêmes. Et je suis plongé dans ma page et j'y crois.
Alors, Jérôme Maffre est cité donc pour la couleur, pour la mise en couleur, mais comment ouais. vous l'imaginez ? Parce que là
c'est
aussi...
C'est une faute de maquette. Une erreur de maquette. Non, j'ai fait la couleur.
C'était parce que je crois que c'est sur votre compte Instagram, il y a des photos où on vous voit en train de, on voit quelqu'un qui met en couleur, donc ça paraissait bizarre. Donc voilà, ça c'est réglé.
Oui, c'est une erreur.
Donc alors, comment vous organisez la lumière ? Parce que là aussi, il y a un rythme dans la lumière, cette façon de donner un éclairage à l'intérieur d'un café, à l'intérieur d'un appartement, sur le pavé luisant à cause de l'eau, de la pluie. Alors là aussi, comment se créent ces ambiances lumineuses ?
Ça, c'est ma première... C'est mon outil principal pour mettre en scène la lumière. Pour moi, j'ai... je me réfère autant aux grands dessinateurs comme Giraud ou Canif, ces dessinateurs d'ambiance, que aux grands chefs opérateurs du cinéma, quoi, les grands photographes de cinéma qui utilisent la lumière comme base de mise en scène. Donc je fais un petit story, ce qu'on appelle un storyboard, c'est-à-dire un petit découpage des pages dessinées en tout petit avant pour décider de la mise en scène, et chaque fois la première question que je me pose, c'est où sont installés les spots lumineux, où est la source lumineuse. Donc j'aborde jamais une case sans me poser cette question là et si elle va être éclairée d'en dessous, qui va être plus dramatique, éclairée de dessus, qui va écraser un petit peu le personnage par le poids de quelque chose, ou en contre-jour, qui va permettre de laisser imaginer l'expression du personnage qui parle, ou au contraire éclairé de face, qui révèle le personnage dans tous ses traits. Donc voilà, c'est mon... Puis ça vient aussi de Rembrandt, je pense, où j'ai beaucoup, beaucoup regardé les gravures de Rembrandt quand j'étais petit. Et si j'aborde pas, si je pense pas d'abord à la lumière, le risque qu'il y a aussi, c'est que je dessine la scène et puis après, quand je le mets en bleu, je le mets en couleur, si j'ai pas décidé avant d'où vient la lumière, je peux me retrouver bloqué à avoir un personnage sombre sur un fond sombre et qu'on puisse pas bien le lire. Donc c'est aussi un outil pour que les silhouettes se détachent bien et que la case se lise, qu'elle soit très lisible. C'est pour ça que je dessine en tout petit avant, parce que comme ça, si c'est lisible en tout petit, ça le fera en plus grand. Mais ça vient de Pratt, de Milton Caniff, de toute cette bande dessinée américaine, et puis du cinéma expressionniste allemand aussi, beaucoup. Enfin voilà, il y a plein de sources diverses et variées.
Comment êtes-vous sur votre table à dessin, Jérôme, Dominique Bertaille ? Ça m'a troublé, cette bien, histoire avec Jérôme Maff. Donc, comment êtes-vous sur votre table à dessin ? Il y a beaucoup d'applications, il y a une assaise, ou au contraire, vous voulez garder une vivacité dans le traitement graphique ?
Difficile à expliquer, parce que je me vois pas quand je travaille. J'ai une table à dessin inclinée, à l'ancienne, comme ça, qui me permet de rester relativement droit. J'ai des bonnes lunettes qui me permettent de dessiner assez petit. J'ai toujours des bouquins ouverts à droite, à gauche. Et j'ai pas l'impression d'avoir une grosse application au dessin lui-même et à mon trait, parce que je pense pas vraiment dessin en dessinant. Je pense surtout personnage. Donc plus j'oublie que je suis en train de dessiner, mieux je me porte. Et donc mon trait peut avoir quelque chose d'un peu léger, comme ça. Je m'applique pas à l'ancrage, par exemple. Je pense pas à mon outil. Et puis je sais si mon trait est un peu fragile ou pas comme j'aurais aimé. Je sais que derrière je peux venir le récupérer à l'aquarelle et à la lumière. Donc le trait est un support pour la mise en lumière qu'il y aura après. Et puis j'essaie d'avoir une légèreté. comment dire, dessiner sans que ça soit trop grave, pas me dire « Ah, ce trait-là doit être parfait ». Non, je le pose, et puis au pire, je me trompe, et puis je reviens dessus. J'essaie d'y laisser le plus de fragilité et de vie possible, que ça vibre, que ça soit pas figé dans l'ancrage.
Dominique Bertaille, quelles sont les questions de dessin que vous vous posez encore, auxquelles vous n'avez pas encore répondu ?
Oh, il y en a un million, parce que évidemment, c'est toute la journée, tout le temps. Il y a une question fondamentale qui se pose constamment, c'est est-ce que je dois faire du dessin, je ne sais pas comment l'appeler, peut-être du dessin artifice, c'est-à-dire qui doit faire oublier qu'il est du dessin, pour qu'on croit que ce sont des personnages et qu'il y a une vraie histoire. Et donc, donc user de toute une palette d'artifices, de mise en scène pour faire croire à de l'espace, pour faire croire à ce que je suis en train de dessiner. Ou alors l'autre voie qui est celle du dessin qui s'assume totalement en tant que qu'extension de son propre corps, quoi, c'est-à-dire qu'une ligne qui va être vraiment du lapsus constant de ce qu'on pense en quand on dessine, ou de notre corps, et qui soit une écriture qui s'assume comme étant une écriture, et qui voudrait dire je suis pas en train de vous faire croire qu'il se passe ça dans l'histoire, je suis en train de vous montrer que je suis en train de dessiner ce qui se passe dans cette histoire là et ça, c'est deux approches qui sont radicalement différentes, l'approche immersive, donc celle des artifices, et l'approche écriture et littéraire, qui est celui des dessins qui s'assume. Et en tant que dessin, je veux dire. Et ça, c'est toute une question de où se situe l'ego. C'est-à-dire que quand je dessine, est-ce que j'affirme que c'est moi en train de dessiner ça, ou est-ce que je m'efface face à l'histoire que je vous raconte ? Donc ça, c'est c'est deux façons d'envisager le dessin qui sont radicalement différentes. Et j'essaie toujours un peu de trouver une zone médiane entre ça. C'est-à-dire avant tout faire passer une écriture artifice pour faire croire, et puis en même temps de contraindre le moins possible mon geste pour que le dessin soit le plus vivant et que j'assume mon corps et mon état d'esprit au moment où je suis en train de le faire. C'est un double langage permanent comme ça. Ça, c'est vraiment deux questions fondamentales dans la bande dessinée en général. Hein. Et puis se pose aussi la question de la virtuosité. Moi, jusqu'ici, il y a un côté un petit peu dans le dessin. Un des plaisirs du dessin, c'est d'épater les copains à l'école au début. D'abord d'épater ses parents, et puis après d'épater ses amis, et puis de s'épater soi-même, qui a un vrai plaisir du dessin, parce que quelque part c'est un spectacle dessiné. Moi, plus ça va, plus je me rends compte à quel point c'est magique. J'adore regarder les autres dessiner, j'adore me regarder dessiner aussi, enfin voir les dessins se faire sous ma plume, c'est toujours assez fascinant. Mais en même temps, avec ce projet de Madeleine, c'était aussi une manière de m'éloigner de ce côté d'épater les copains avec la virtuosité, quoi, et de laisser la virtuosité de toute relative, hein, d'ailleurs, parce que franchement c'est très brinque-ballon mon dessin, mais d'être au service de l'histoire, quoi.
Merci beaucoup, Dominique Bertaille, merci pour ces belles paroles. Je vais rappeler les caractéristiques de vos livres. Donc Madeleine Résistante, c'est un triptyque. Les 128 pages de ce troisième volume.
C'est pas un triptyque, si je peux me permettre, c'est pas un triptyque. Il y a un quatrième tome qui arrive.
Alors ça sera plus la même résistance.
Si, c'est parce qu'en fait le troisième tome se termine au milieu de l'insurrection, mais après il y a toute l'insurrection, il y a toute la bataille de la République, il y a le Paris qui se révolte, donc il y a un quatrième tome qui arrive avec Voilà, le cœur de l'insurrection.
C'est une très bonne nouvelle. Je ne sais plus pourquoi j'avais lu qu'il y avait, c'était un triptyque.
Oui, il y a eu une erreur AFP. Donc, quand il y a eu une erreur AFP, après, ça peut s'étendre un petit peu.
Bah, décidément. Non, mais alors après, il y a aussi les autres résistances de Madeleine qui peuvent être mis en image, parce que je crois que ça peut faire aussi de très beaux récits.
C'est ce qui est prévu aussi. Hein, c'est que là, il y en a quatre pour le premier cycle sur la résistance. Et puis après, on continuera pour raconter la deuxième vie de Madeleine en tant que grand reporter, qui est tout aussi ébouriffante comme histoire.
Bah, c'est une très bonne nouvelle.
C'est au long cours.
Merci beaucoup, Dominique Bertaille. Donc, Madeleine Résistance, le tome 3, qui n'est donc pas le dernier tome d'un triptyque, mais le troisième d'un quadriptyque. Les nouilles à la tomate, c'est publié par les éditions Dupuis dans la collection Air Libre. Et les 128 pages de ce livre sont au prix de 23,50 €. Et le livre a été imprimé en France. Merci et très bonne continuation.
Eh bien, merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
One fine morning, I woke up early. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. One fine morning, I woke up early. To find the fascists at my door. Oh, partigiano, please take me with you. Bella ciao, bella ciao, goodbye beautiful. Oh, partigiano, please take me with you. I'm not afraid anymore. Partigiano, bella ciao, goodbye, beautiful. Bury me upon that mountain beneath the shadow of the flower. So are the people. People passing, bella ciao, goodbye, beautiful. So all the people passing, can say, oh, what a beautiful flower.
C'était l'adaptation par Marc Ribot et Tom Waits de ce très beau chant de résistance qu'est Bella Ciao, qui était d'abord un chant pour la révolte des ouvrières des Marais Salants, des ouvrières italiennes, et puis qui est devenu un chant de résistance. Je voudrais terminer avec, là aussi, une autre approche de la biographie, celle de Truman Capote avec Retour à Garden City. C'est un récit mis en image par Nadar et écrit par Xavier Bettaucourt. Alors, la grande originalité de ce Truman Capote retourne à Garden City, c'est pas du tout la biographie de Truman Capote, mais c'est une mise en lumière de la personnalité même de Truman Capote à travers le très grand récit qu'il a écrit, qui est un des classiques de la littérature américaine, qui est De sang-froid, où Truman Capote va enquêter sur place, dans une maison où il y a toute une famille qui a été assassinée. Et donc, le récit de Xavier Bettaucourt, c'est vraiment de faire revenir Ça a été le cas, puisqu'il y a eu un film qui a été tourné, donc il y a tout un travail de mise en commun, de relations entre les producteurs, les réalisateurs et Truman Capote, un retour donc sur les lieux, et c'est... comment la personnalité de Truman Capote va vivre cette après-publication de Sang-Froid et cette mise en image à travers le film de son histoire. Donc là, l'idée, c'est que ça correspond parfaitement à la personnalité de Truman Capote, qui est à la fois sincère et manipulatrice. Il transformait assez facilement la réalité de sa vie dans le sens où ça l'arrangeait. Et c'est quelqu'un qui aimait beaucoup le mondain, la jet set, et qui se mettait en scène une sorte de vie flamboyante. Et puis, vie qu'il a physiquement détruit, et notamment dans l'écriture de cette histoire. Donc, il y avait des affirmations comme quoi il disait qu'il était adoré dans le Kansas. C'était vrai, mais c'était en partie vrai parce que sa personnalité était au contraire très controversée. Donc, il y a tout au long de cette histoire cette façon d'épaissir le contexte de l'écriture et de la suite de ce remarquable livre de Sang-Froid, et comment, à travers les relations avec les personnes du village qui ne veulent pas le voir, qui sont très méfiants à voir arriver presse et équipe de cinéma, le procès lui-même, cette façon qu'il a eu de défendre son point de vue, d'essayer de rencontrer les assassins. Il y a une relation qui s'est liée avec Perry Smith, qui est un des deux meurtriers qui va être condamné à mort. Et donc, il y a là aussi quelque chose de très trouble dans cette relation qui s'est établie entre les deux hommes. Xavier Bettaucourt va donc ciseler ce récit qui sera mis en image par Nadar et qui va parfaitement s'approprier cette narration. Nadar, c'est un dessinateur espagnol qui avait fait ce très beau roman graphique qu'il avait fait découvrir en France, qui s'appelait Papier froissé. Et donc, c'est un dessinateur qui a un geste graphique là aussi, qui est très précis, qui est simple, qui dresse les personnages dans leur attitude, dans leur regard, dans leur gestuel. Là aussi, comme pour Dominique Bertaille, on a la même attention picturale. Et il y a aussi ce choix des moments qui illustrent parfaitement aussi bien les dialogues que les scènes. Cette capacité à ce que le dessin fasse sens à la fois, bien sûr, du moment, mais de l'atmosphère du moment, des tensions qu'il peut y avoir entre les différents personnages, ou cette atmosphère tendue qu'il peut y avoir dans une salle de procès, où la présence des journalistes va être importante. À chaque fois, le trait de Nadar va être juste, précis, va utiliser par exemple les lunettes pour masquer ou non le regard de Truman Capote. Parfois, on aura le reflet des lumières qui vont masquer le regard, et d'autres fois, on le verra pleinement. Et là aussi, ce rythme apporte beaucoup à cette personnalité changeante qui était celle du romancier américain. Ça se lit avec un plaisir incroyable. Il y a une sorte de découverte de cette personnalité, de cet écrivain américain qui a marqué beaucoup de lecteurs. Et c'est une façon que la bande dessinée puisse s'approprier des biographies et sortir de cette simple chronologie et plutôt s'attacher à des moments très forts d'une célébrité pour qu'on puisse lire autrement, découvrir autrement, comprendre autrement la puissance de ces personnalités. Truman Capote, retour à Garden City, mis en image par Nadar et écrit par Xavier Bettaucourt. C'est un livre qui est publié par les éditions Futuropolis. Les 112 pages de cette biographie, on peut dire encore biographie, sont au prix de 21 €. Et le livre a été imprimé en France. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi, avec une invitée. Cette fois, ça sera Aude Mermillot pour son très beau roman graphique « Éclore ». Merci Fabien pour cette technique et bon après-midi sur Radio Escapade.
Écriture dessinée.